Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez Martino. Cube Radio.
Alors, Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique, grand lecteur, aux deux semaines, il vient nous parler d'essais qu'il lit. Et là, bon, habituellement, c'est des essais savants, profonds. Là, c'est une lecture d'été. Il commence à se mettre un peu en mode été. Alors, Guy, tu nous parles de la biographie, l'autobiographie du gars qui jouait C-3PO dans Star Wars.
Oui, qui s'appelle « Je suis C-3PO ». Le sous-titre, c'est « Les souvenirs ne s'effacent pas ». C'est une référence directe au fait que son personnage dans la saga, on efface sa mémoire, mais dans son cas, lui, ses souvenirs-là sont toujours omniprésents. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que dans la version anglophone, le sous-titre, c'est « The Inside Story ». Puis en même temps, je trouve ça cute parce que « l'inside story », parce que lui, c'est un insider de cette saga-là, mais en même temps, il est à l'intérieur de ces trois PO.
À la limite, là, le comédien qui joue ces trois PO, on s'en fout un peu quand même. Là, on le voit jamais. Il est dans un uniforme en métal. Ça pourrait être n'importe qui joue ces trois PO, non?
Exactement. C'est ce que lui, évidemment, il en fait référence dans le livre, parce que souvent, les gens vont le regarder comme une certaine snobisme, dire, écoute, t'as eu le rôle parce que tu fites dans le costume.
Oui.
C'est pas tout à fait faux. Par contre, faut pas oublier que le type avait quand même une certaine qualité théâtrale, parce que bon, c'est essentiellement un acteur de théâtre, mais qui avait une formation classique de théâtre, puis il avait fait ses cours de mime. Fait qu'une des conditions, justement, pour être capable d'accomplir ce rôle-là, c'était d'avoir une certaine forme de communication qui passe par le mime pour être capable de passer des émotions. Parce qu'on s'entend que ces trois PO, c'est un visage figé.
Oui.
Et puis, lui, il avait tout cet enjeu-là à composer avec. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que dans la trame originale, c'est que lui aurait pu subir le même sort que subit l'acteur qui était dans le costume de Darth Vader, qui s'appelait David Prowse. Parce que, bon, les comédiens qui étaient déguisés comme ça, que ce soit Prowse, Anthony Daniels, ou même le type qui faisait Chewbacca, il aurait pu tout subir le même sort, dans le sens que Prowse, lui, était convaincu, quand il faisait ses répliques sur dans le décor, c'est que ces répliques allaient être reprises puis être incorporées dans le film. Mais par contre, on lui a imposé la voix d'un autre comédien.
OK, c'était même pas sa voix qu'on entendait.
Non, c'est James Earl Jones, le comédien l'acteur américain noir.
Avec une grosse voix.
Lui, exactement, ce qui rendait le personnage encore plus inquiétant. Dans le cas de C-3PO, originalement, le plan de George Lucas, c'était de mettre la voix de Richard Dreyfuss. Au final, c'est vraiment... parce que Anthony Daniels, c'est un acteur londonien, c'est un Anglais. Donc, finalement, c'est sa voix qui a été reprise, mais ça aurait pu être la voix de n'importe qui, comme tu dis. Mais c'est la voix d'Anthony Daniels lui-même qui donne le petit côté... Du butler, là, du domestique.
Ben oui, non, mais il a l'air britannique, là, la façon dont il se tient, puis tout ça, là, il a l'air britannique. Mais quel est l'intérêt de lire la biographie du gars qui joue C-3PO? Puis en plus, c'est un gros best-seller, ce livre-là, ça a super bien marché.
Absolument, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est que de tous les acteurs, il est le seul acteur de toute la saga à avoir participé à chacune des productions. Donc, les 9 films plus les deux spin-offs, là, le spin-off de Solo et le spin-off qui s'appelait Rogue, qui était comme un genre de film qui expliquait comment s'était passé le vol des plans de l'Étoile Noire. La seule différence, c'est que bon, dans Solo, lui avait toujours rêvé quand même d'avoir un rôle où on y voyait son visage à lui, c'est qu'ils ont donné un autre rôle que C-3PO dans Solo, mais c'était un rôle très, très, très mineur, mais au moins on y voit la face. Et C-3PO, le personnage, est quand même le personnage qui fait partie des 9 films. Fait que c'est quand même intéressant parce que tout le monde voit la production de Star Wars comme quelque chose de, qui est calculé puis qui est maîtrisé vraiment là, de façon parfaite, mais on se rend compte que c'était un gros bric-à-brac. Là. Évidemment, le premier Star Wars, George Lucas lui-même ne croyait même pas au succès du film. Il était convaincu que ça allait faire un flop. Puis au moment où le film est en train de remporter un succès, lui, il était caché quelque part à Hawaï parce que je suis dit, bon, mais le film est lancé, j'ai fait mon film. Voilà, c'est en arrière de moi.
Mais il faut se remettre à l'époque, il n'y avait pas grand film de science-fiction. La science-fiction était un genre qui était complètement oublié. C'était un film qui n'avait pas un si gros budget que ça pour un film de science-fiction. Pour lui, là, effectivement, il pensait que c'était pour être un flop. Je ne sais pas si tu as vu le gros livre Taschen sur les trois Star Wars originaux, là, mais un gros livre, là, ce qu'on appelle des Coffee Table Book qui est là-dessus. Lui, est-ce que quand même il jette un regard critique sur les nouveaux Star Wars? Parce que moi, j'ai aimé les trois originaux, mais après ça, j'ai complètement décroché.
Absolument. Ben, je veux dire, lui-même était un petit peu surpris de voir comment les choses ont évolué. Puis il espérait toujours que le personnage de ces trois PO soit autre chose qu'un accessoire, parce que c'est un petit peu ça. Mais tout le monde l'adore, ces trois PO, malgré son petit côté emmerdant, mais il est attachant. Et lui espérait toujours qu'on l'intègre un peu plus dans l'intrigue. Et c'est peut-être plus ça qui l'a déçu, mais évidemment, les films ont quand même déçu à peu près tout le monde. Je pense qu'il y a encore plus critique des prequels.
Les prequels, ouais, les Ewoks ont eu leur spécial de Noël, puis C-3PO, il n'a pas eu son spécial, lui, alors que les Ewoks ont eu leur spécial. Donc,
c'est exactement la frustration qu'il y a, parce qu'il y a un rapport un petit peu doux-amer avec la production, même amour-haine. Parce que justement, il adore le personnage. Puis d'ailleurs, on ne sait plus qui est à l'intérieur de qui. Est-ce que c'est Anthony Daniels qui est à l'intérieur de ces trois PO ou l'inverse? Parce qu'il y a vraiment une symbiose qui est créée avec le personnage. Puis les deux partagent un petit peu les mêmes frustrations parce qu'on sait que ces trois PO, dans le film, le personnage est souvent malmené. Il y a un certain mépris si on regarde l'exemple, le rapport qu'il y a avec le personnage de Han Solo. Ben, ce qu'on voit à l'écran, c'est un petit peu aussi ce qui se passe derrière les caméras, parce que justement, il y a toujours senti une certaine forme de mépris de la part de l'entourage, de la production.
Écoute, donc, je suis C-3PO. T'es Star Wars ou Star Trek?
Écoute, je suis Star Wars, mais le premier, Richard, parce que tu disais que t'étais déçu des productions après, parce que faut s'en mettre dans
le... Non, mais moi, Jar Jar, le gars qui a imaginé Jar Jar devrait avoir une peine de prison.
La prequel au complet.
Oui.
Comme je te dis, moi, je suis... Ben, quand je te dis le premier, je parle du d'original de 77. Parce que j'avais 12 ans, il y avait une empreinte majeure. Tu sais, quand t'es jeune, quand tu vis des grandes émotions, t'es garde fort. Mais ça s'est estompé avec le temps. J'espérais toujours que chaque film qui sortait allait recréer ce wow-là que j'ai eu en 77. C'est jamais arrivé au point que je me suis détaché de tout le reste pour m'en tenir uniquement à la version originale de 77, puis le reste, je m'en fous.
Mais sais-tu pourquoi t'as pas retrouvé le war? Parce que t'étais enfant quand t'as regardé les trois premiers. Je pense que c'est ça. Exactement ça. T'étais enfant. Voilà. C'est comme retourner sur les lieux d'un lieu qui t'avait fasciné quand t'étais enfant. Tu retournes, puis tu dis, ah, c'était bien petit, puis c'était bien cheap, puis c'était pas si génial que ça, finalement. Donc, il y a un peu ça. Écoute, rapidement, est-ce que t'as quelques suggestions de lecture d'été?
Ben écoute, pour les gens qui veulent revoir un petit peu l'actualité, je pense que on peut passer par différents thèmes qu'on entend parler beaucoup de ce temps-ci. Si on parle du fameux terme fasciste que tout le monde utilise à outrance, je pense que le livre à lire qui vient tout juste de sortir de Paul Gottfried, qui s'appelle « Fasciste, histoire d'un concept ». Écoute, il y a des gens qui utilisent ce terme-là facilement. Il passe 450 pages à expliquer que c'est pas si facile de lancer le mot fascisme en pleine gueule de tout le monde. Okay. Ensuite, ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en Israël, il y a un livre récent aussi qui est disponible en librairie de Yaakov Rabin qui s'appelle « Comprendre l'État d'Israël, idéologie, religion et société ». Là encore là, c'est un livre très objectif qui explique toute la situation. Puis on voit qu'il n'y a rien de sain dans cette histoire-là. Et puis pour ce qui est de la situation autochtone au Canada, le livre à lire, je pense, pour bien comprendre toute la saga et l'histoire derrière ça, c'est le livre de l'auteur amérindien Thomas King qui s'appelle « L'Indien malcommode, un portrait inattendu des Autochtones d'Amérique du Nord ». Je pense que si vous voulez avoir une version très réaliste de la situation et de l'histoire des Autochtones, c'est le livre à lire.
L'Indien Malcommode, j'adore le titre. Merci beaucoup. Oui. Bon été, Guy.
Bon été, bonnes vacances, Richard, et bon voyage.
Oui, je croise encore mes doigts. J'espère que ça va être possible. On se reverra à Québec. On ira prendre un verre à Québec. Salut, Guy.
Je t'attends. Bye-bye.